Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Cette année-là, le roi Édouard mourait en Angleterre, Guillaume le Conquérant, lui, traversait la mer, et les Normands aimaient ça. Cette année-là, dans le ciel passait une comète, allez savoir comment on l'appelait. Oh, quelle année cette année-là! Mais cette année-là meurt aussi Harald de l'Impitoyable et le Suédois Stenkil. On croyait que la fin des Vikings arrivait cette année-là. C'était hier, mais aujourd'hui, rien n'a changé, enfin si, un peu quand même. C'était l'année 66, 1066 évidemment. Serait-ce la fin de l'épopée viking? Et d'ailleurs, comment cela a-t-il bien pu commencer?
Jusqu'au 8e siècle, nous ne savons à peu près rien de l'histoire des peuples scandinaves. En tout cas, rien de précis. Quelques indications isolées soulèvent par endroits le voile qui recouvre les périodes antérieures. Nous entrevoyons par transparence une vie guerrière, des chocs violents et des déplacements de tribus. Le sens général de cette agitation apparaît du reste assez clairement. Un travail d'unification s'effectue peu à peu, groupant autour de chefs puissants des tribus de plus en plus nombreuses.
Alfred Jolivet, professeur d'université à la faculté de Paris, qui s'exprimait en 1958. Nous ne savons rien jusqu'au 8e siècle, disait-il, des Vikings. C'est normal parce qu'il n'avait pas écouté l'émission que le cours de l'histoire a consacrée au premier peuple du Nord avec Lucie Malbos et Anne Nissen. Une émission à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France pour actualiser un petit peu les connaissances. Bonjour Stéphane Covio.
Bonjour.
On évoque un début ici de ce monde viking. Alors c'est vrai qu'ils apparaissent, on le dit, au 8e siècle, c'est ça, fin 8e siècle?
Deuxième moitié du 8e siècle.
Voilà, très bien. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la fin. Bonjour Alban Gauthier.
Bonjour.
Est-il possible de donner une fin pour cette épopée viking?
D'en donner une date précise, non. Alors, traditionnellement, on donne, comme vous l'avez dit au début, la date de 1066. Mais en réalité, pendant les 3-4 décennies qui suivent, on a encore des événements, on a encore des expéditions qui ressemblent tout à fait à celles qui existent précédemment. Et donc, en réalité, le phénomène viking s'éteint progressivement, en tout cas du côté de la mer du Nord, parce que du côté de la Baltique, du côté de l'Est, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de solution de continuité et que les expéditions menées par les pouvoirs danois et suédois tout au long du XIIe siècle, par exemple les croisades nordiques, ces expéditions s'inscrivent dans la continuité du phénomène viking à mains égards.
Alban Gauthier, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen, Normandie. Vous utilisez ce vocabulaire de pouvoir scandinave. On l'utilise, ce mot scandinave, très facilement pour remplacer celui de viking, avec toujours cette idée que viking, c'est pas un peuple, c'est une profession, c'est prendre la mer et faire un peu de commerce et un peu de piratage. Mais est-ce que l'on a pu parler à un moment sur cette période qui nous intéresse, à vrai dire à partir de la fin du 8e siècle, d'un pouvoir viking? Est-ce que ça a un sens de dire un pouvoir viking?
Ah oui, pour moi, ça a un sens. Il y a des figures de pouvoir, ceux que l'on appelle par exemple les rois de mer, Saekwonungur. Ce sont des personnages qui exercent un pouvoir avec une base qui est formée de bateaux, en fait, dont le fondement même de leur pouvoir, ce sont des flottes. L'historien Neil Price a même parlé, au lieu du mot territoire, de méritoire, hein, d'espace contrôlé par des pouvoirs, ou du moins dans lesquels des pouvoirs parviennent à exercer une réelle influence, une capacité de faire ce qu'ils veulent aux gens qui sont dans ces espaces, à partir de bases maritimes et à partir de flottes. Et donc dans ce cas-là, on pourrait parler de pouvoir viking.
Stéphane Covio, vous êtes historien, professeur en classe préparatoire, c'est fait de loin, c'est ça? Avec cette réflexion que nous pouvons avoir sur l'organisation du pouvoir dans cette période des Vikings, c'est quoi en fait? Il y a un chef qui domine tout cela ou c'est un système de clans?
C'est en fait essentiellement une affaire de mutation. L'époque viking est marquée par une transformation de la nature des pouvoirs qui s'opère d'ailleurs au fil des contacts que les Vikings, appelons-les comme ça, ont entretenus avec le reste de l'Europe. l'Europe. Si on se place dans cette époque qu'André Jolivet disait inconnue et qu'on connaît mieux maintenant, on voit qu'il y a quand même des pouvoirs locaux, ce qu'on appelle des chefferies organisées autour de ce qu'on appelle des places centrales, c'est-à-dire des lieux dont le centre est une grande halle, avec éventuellement une nécropole constituée de plusieurs tertres funéraires, et un débouché maritime en général pas trop loin. Et ce qu'on observe au cours de l'époque viking, c'est justement qu'un certain nombre de ces chefferies se rassemblent, il y a un phénomène de coagulation, on pourrait dire, qui profite à certains d'entre eux, souvent d'ailleurs des chefs qui ont des contacts très étroits avec le reste de l'Europe et qui, en fait, à mon sens, importent progressivement en Scandinavie le modèle politique qu'ils ont pu observer en Angleterre, en Normandie, pourquoi pas également à l'Est, qui est pour eux admirable parce qu'il est beaucoup plus fort que le leur, et cette force, elle réside aussi dans la présence du christianisme.
Eh oui, c'est cela, hein. Les mots ici sont avancés, c'est le christianisme, et puis ce pouvoir qui fascine les vikings, c'est la royauté. Stéphane Covieux, vous êtes l'auteur de La fin des mondes vikings. La fin du monde viking, c'est intéressant parce que ça nous intéresse spécifiquement aujourd'hui, avec une subtilité. Il y a les raids vikings qui ont marqué l'Europe, on les voit arriver, ils remontent les fleuves, et puis après, il y a les vikings en Scandinavie. Les raids eux-mêmes se poursuivent, ou alors la fin des raids signifie la fin du monde viking?
Alors les raids se poursuivent, mais en fait ils changent un peu de nature pendant l'époque viking. Les raids dont vous avez parlé tout à l'heure à l'occasion de l'introduction sont des raids dont une partie des motivations sont la volonté de prendre le pouvoir ailleurs. On le connaît par exemple les rois danois, Sven à la barbe fourchue et puis Knut le Grand, qui deviennent l'un et l'autre rois d'Angleterre. Donc c'est un peu différent que les premiers raids, par exemple ce fameux raid de Lindisfarne en 793 qui vise essentiellement le pillage. La nature a changé parce que le but a changé. À la fin, c'est construire ses royaumes, qui marque la fin de l'époque viking.
Et construire ses royaumes avec cette date qui revient sans cesse, 1066.
On peut parler, si vous voulez, d'une dernière grande expédition, parce que celle-là est entrée dans l'histoire, et même d'une façon décisive, puisqu'elle intéresse tout l'Occident, c'est 1066. 1066 est la dernière grande expédition montée par un roi, Harald Haraldi, qui voulait reconquérir York au profit d'ailleurs d'un de ses féaux. Il a armé une flotte énorme de plus de 250 bâtiments. Il a débarqué à l'embouchure de la Derwent et là, il a été rejoint par Harold, Child Harold. Il faut pas oublier que ce roi en Angleterre était le fils d'une princesse danoise. C'est un peu une affaire de famille. Enfin, toujours est-il que, en 1066, Harald et tous ses hommes ont mordu la poussière, et c'en était terminé. Et des grandes expéditions de conquête qu'ont pu mener les Vikings depuis 872. Mais il est certain que la civilisation viking, dans ce qu'elle avait de matériel, je pense surtout à la construction navale, eh bien, va perdurer encore pratiquement jusqu'au XIIIe siècle.
Et oui, c'est ça, un processus. Et Frédéric Durand, professeur à l'université de Caen, qui a été l'auteur des Vikings et la mer en 1996, qui nous parlait de cette année 1066. Alban Gauthier, alors bien sûr, on le sait, c'est facile pour la chronologie de fixer une date, mais bien souvent, dans les faits, c'est un processus beaucoup plus lent.
Oui, en effet, je dirais même que on a plusieurs grandes expéditions du même type que celle de Harald le Sévère ou l'Impitoyable en 1066, menées cette fois-ci non pas par des rois norvégiens comme Harald, mais par des rois danois. Et en fait, tout au long des années 1060, la fin des années 1060, les années 1070 et même encore dans les années 1080, les rois danois, donc Sven Estridsen, Sven fils d'Estrid, et puis son fils Knut le Saint, ont eu le projet de conquérir, voire de reconquérir l'Angleterre. Je dis reconquérir parce que, comme l'a expliqué Stéphane Covieux juste avant, les rois danois, au début du XIe siècle, avaient exercé le pouvoir en Angleterre, avaient été rois en Angleterre. Et donc, on a toute une série d'expéditions qui sont montées dans les 20 ans, disons, qui suivent la conquête normande de l'Angleterre. Simplement, à l'instar de l'expédition d'Harald Hardrada en 1066, ces expéditions sont des échecs. C'est-à-dire que les rois anglais, puis normands, Harold, puis Guillaume le Conquérant, ont efficacement repoussé les attaques de ces souverains norvégiens puis danois. Mais c'est pas parce que les attaques ont échoué, les expéditions n'ont pas été suivies de la conquête de l'Angleterre, que ces expéditions n'ont pas eu lieu, qu'elles n'ont pas été de grande échelle, qu'elles n'ont pas été parfois impressionnantes. Et elles ont réellement menacé le pouvoir de Guillaume le Conquérant en Angleterre.
Et oui, l'échec ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu avec ces rois qui apparaissent ce mot, roi, royauté. Comment Alban Gauthier se met en place ce système de royauté, ces royautés scandinaves? Parce que on le disait, hein, quand on commence au 8e siècle, on n'a pas de roi en Scandinavie, et puis ils apparaissent. Alors c'est simplement en copiant ce qu'ils peuvent apercevoir en Europe?
Alors, je dirais que si on n'a pas de roi au 8e siècle en Scandinavie, c'est parce qu'on a très peu de sources écrites. Cela dit, dès le début du 8e siècle, on voit apparaître dans certains textes francs, par exemple dans la géographie, la mention de rois danois, par exemple. Et au tournant du 8e et du 9e siècle, sous le règne de Charlemagne, il y a un roi danois bien connu, qui est bien attesté par les sources franques, qui est Godfrid ou Godofrid. Et ce personnage est présent au Danemark et exerce un pouvoir royal. Donc, l'apparition de la royauté en Scandinavie, c'est quelque chose de très difficile à dater précisément. Non pas tant parce qu'on ne voit pas dans l'archéologie l'émergence de pouvoirs, mais parce que l'archéologie n'est pas en mesure de nous dire que ces pouvoirs portent le titre de roi, konungur, en vieux norrois.
Et oui, c'est cela qui est complexe, c'est la source, les sources à disposition. Avec cette réflexion que nous avons aujourd'hui, comprendre la fin des Vikings, Stéphane Covio, est-ce que la mise en place de royautés scandinaves est un élément d'explication pour comprendre comment les Vikings, alors ils ne disparaissent pas en tant que tels, mais comment en tout cas ce pouvoir se transforme?
Je pense que c'est essentiel, effectivement, et c'est aussi un peu paradoxal, puisque l'apparition de ces royaumes est souvent la cause des derniers raids vikings qui sont de très grande ampleur, et aussi la cause de leur, non pas disparition, mais effacement. Ils sont la cause des raids, dans la mesure où on voit qu'un certain nombre de chefs scandinaves avides de devenir rois, et là je pense en particulier à ceux qui deviendront en Norvège, Olaf Tryggvason, Olaf Haraldsson, Saint Olaf, ont construit leur pouvoir politique sur le pillage. Il leur a fallu amasser des moyens pour ensuite construire une autorité, sachant que l'autorité de ces rois du XIe siècle ne reposaient pas tant sur des institutions que sur leur capacité distributive. Donc il fallait qu'ils se constituent un stock, d'où de nombreux raids. On voit par exemple que Saint Olaf a passé sa jeunesse à piller l'Europe entière jusqu'au Guadalquivir, et il en est resté un très joli poème de son skald favori qui s'appelle Sigvat. Mais en même temps, une fois que ces royaumes se construisent, on voit que les rois sont de plus en plus capables de contrôler finalement la violence, de l'utiliser à leur propre fin, et ça donne en fait une sorte de déplacement de la violence vers des objectifs qui sont par exemple la définition précise des territoires. Il y a par exemple un grand conflit entre les rois danois et les rois de Norvège à propos du fjord d'Oslo. Et ce sont les Norvégiens qui l'emportent finalement. Ou bien encore, et Alban Gauthier en parlait tout à l'heure aussi, on voit une autre forme de violence se développer, celle qui cherche à construire pour chacun des royaumes en gestation une sorte d'aire d'influence. Le sud de la Baltique pour les Danois, la Finlande pour les Suédois au XIIe siècle, et pour les Norvégiens, qui ont toujours eu une orientation plus occidentale, c'est tout l'Atlantique Nord.
Avec un précédent qui existe bien sûr, c'est la Normandie. Il ne faut pas l'oublier, un viking, ça vieillit.
Dans la vaste forêt de Touc, qui s'étendait alors jusqu'aux rives de cette mer qui sépare l'empire des Francs du pays des Anglais, s'élevait un puissant château fort. Dans la chambre haute d'une des tours du château, auprès d'un grand feu de bois, assis dans un fauteuil de pierre, veillait, malgré l'heure tardive, un vieillard à la barbe blanche qui avait près de 100 ans. Mais qui eût pu reconnaître en ce vieillard Rollon, premier duc de Normandie, le fier viking, qui 60 ans plus tôt avait ravagé ce pays qu'il avait gouverné ensuite en maître légitime. Harold, te souviens-tu du temps où, montés sur nos navires étroits, nos dracars à la proue sculptés à la ressemblance d'un dragon, nous sillonnions la plaine des mouettes? Te souviens-tu de nos expéditions le long de la Loire riante ou sur les rives brûlées de la Rie d'Espagne? Te souviens-tu des tempêtes qui nous secouaient et où tant des nôtres ont laissé leur vie? Je me souviens. Mais ne fait-il pas bon vivre dans une maison bien close? Je ris encore quand je pense à cette terre de Normandie que nous avions saccagée et à cette ville de Rouen que Charles le Simple nous fit redemander en vain. Oui, mais Charles te fit duc et tu régnas paisiblement sur cette même Normandie. Ah, être encore parmi mes vikings, le roi de la mer que l'on craint et que l'on redoute. Mais être le duc de Normandie que l'on aime et que l'on respecte. Les traits de Roland se détendirent et peut-être une larme coula-t-elle de ses yeux, mais cela, on ne saurait l'affirmer car jamais on n'avait vu pleurer le roi de la mer.
C'est beau, hein, on faisait des jolies choses à la radio en 1968 autour de Roland, le fier viking qui ne meurt pas à 100 ans, mais enfin bon, il avait plus de 80 ans quand même. Ici, Alban Gauthier, avec la Normandie, on a très tôt un exemple de viking qui s'installe, qui construit un pouvoir, c'est le duché, puis il faut attendre un petit peu pour que l'on regarde vers l'Angleterre pour former un royaume.
En effet, c'est assez précoce la Normandie, mais c'est pas la seule région d'Occident où des pouvoirs d'origine viking s'installent. Et s'installe parfois durablement et parfois même très durablement. Si on prend par exemple Dublin, il y a un royaume de Dublin qui apparaît au 9e siècle et qui dure jusqu'au 12e siècle. On a aussi pendant environ 80 ans un royaume viking à York, dans le nord de l'Angleterre, royaume viking qui est fondé dans les années 880, donc avant Roland. On a aussi une principauté viking, alors qui a été vraiment très éphémère, mais dans la région qu'à l'époque carolingienne on appelle la Frise, et qui correspond à peu près aux Pays-Bas actuels. Donc dans plusieurs régions d'Occident, on a effectivement des chefs vikings qui, soit par la violence nue, soit en nouant des accords avec les pouvoirs locaux, soit bien souvent par un mélange des deux, parviennent à créer des principautés plus ou moins durables. La Normandie a existé sous forme de duché assez autonome, voire quasi indépendant, jusqu'en 1204.
Avec Stéphane Covio, l'idée que les pires ennemis des vikings, ou en tout cas les principaux responsables de la disparition des vikings, ce sont les vikings eux-mêmes.
Oui, d'une certaine manière, on peut effectivement dire ça. Si on prend l'exemple que vient d'évoquer Alban, c'est vrai que le rôle de Roland, finalement, c'est de mettre en défense une région qui a été quand même très largement servie hein, pendant le 9e siècle. D'une certaine manière, oui, on peut effectivement dire que le viking tue le viking.
Oui, c'est ça, le viking tue le viking, parce qu'il y a l'idée d'effacer peut-être ce qui rappelle le côté terrifiant et barbare des vikings, tout en conservant quelque chose qui est spécifique. Alors là, je pense à des éléments très matériels, notamment les navires. Et est-ce que tout ce qui est non viking, parce que ces noms-là, ils nous claquent à l'oreille à chaque fois, est-ce que tout cela disparaît? Est-ce qu'il y a une volonté de gommer son identité viking?
Non, parce que là, on en arrive sur la question des noms que vous posez à la question de la christianisation, puisque le changement des noms est lié à la christianisation. Le phénomène de la christianisation, c'est un phénomène qui paraît relativement... Alors très très lent bien sûr, et relativement doux, et en matière de nomastique par exemple, ce qui a été montré c'est que les noms, je vais dire viking, théophore dans lesquels vous avez Thor ou Odin, ou As, perdurent très longtemps en étant un peu démonétisés, en quelque sorte déchargés de toute connotation païenne. Les noms chrétiens, si on peut parler ainsi, s'insèrent parfois un peu à la marge. Quand on regarde la dynastie norvégienne par exemple, le nom Magnus, qui vient de Charlemagne, bien sûr, a été introduit pour désigner d'abord des enfants de naissance illégitime, avant de devenir un nom royal.
Ah oui, c'est intéressant ça comme phénomène, Alban Gauthier.
Oui, j'ajouterais que les Vikings parlant le vieux norrois, une langue germanique, leurs noms sont en réalité assez proches des noms de peuples qui parlent d'autres langues germaniques, les anglo-saxons ou les francs. Alors les francs ne parlent plus tous une langue germanique, mais leurs noms sont souvent d'origine germanique. Ce qui veut dire que les noms scandinaves ont souvent des équivalents anglo-saxon ou des équivalents francs. C'est très facile de traduire un nom d'une langue à l'autre, comme Pierre en français, Peter en anglais, Pedro en espagnol. On peut faire le même genre de choses à l'intérieur des langues germaniques. Pour prendre un exemple typique, Haraldur, Harald, c'est l'équivalent scandinave de Harold, Harold en anglais. D'où le fait que c'est facile de naviguer d'une population à l'autre, en tout cas quand on reste à l'intérieur du stock de noms des langues germaniques.
Oui, et puis avec un pouvoir qui est en place et solidement en place, parce que sa base, ce monde viking, était déjà très solide. On voit, du point de vue des territoires, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, une définition beaucoup plus précise de ce que sont ces territoires. Il n'est pas question de parler encore de pays, le Danemark, la Norvège et la Suède, ce serait anachronique. Mais enfin, on commence à avoir des identités plus nettes.
Oui, il y a effectivement la prise de conscience territoriale. Elle se repère par exemple dans les usages poétiques, quand on regarde les poèmes qui datent de la fin de l'époque viking, souvent par exemple les rois de Norvège sont pas appelés rois de Norvège, ils sont rois du Sognefjord, rois du Vik, rois des différentes régions, et puis progressivement le nom Norvège apparaît. Et donc sans doute la réalité crée le mot en quelque sorte, probablement à partir évidemment d'un mot qui veut dire simplement la route du Nord, pour aller vers le Nord. Oui, ces royaumes se constituent territorialement. C'est d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui permet un redéploiement de la violence à l'intérieur de ces sociétés. Et les frontières qui sont définies à la fin de l'époque viking sont d'une grande stabilité par la suite. Elles ne bougent pratiquement pas.
Oui, avec ce processus, celui qui permet à des royautés de se former et qui est accompagné d'un autre processus, mais vous l'avez évoqué parce que c'est une évidence, c'est celui de l'évangélisation.
Le roi, qui fut l'infatigable vigneron du Seigneur, consacra toutes ses forces et son énergie à arracher de son royaume l'idolâtrie et le culte des démons. Utilisant la prière et la prédication, il y ajoutait parfois la menace et la peur. Il avait en effet compris que les cœurs des barbares étaient farouches et que seule une main vigoureuse pouvait les débarrasser de la crasse ancienne de la perfidie et du culte inné des démons qu'ils avaient pour ainsi dire bu avec le lait maternel. Comme les mots ne les émouvaient guère, il y joignit fréquemment les coups, à la fois imitant son Seigneur qui répandit l'huile et le vin sur les plaies de l'homme blessé et suivant les mots de l'Évangile, « Force-les à entrer afin que ma demeure soit pleine ».
Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire qui lisait cet extrait de l'histoire des anciens rois norvégiens de Theodoricus Monachus. Avec ici, c'est du XIIe siècle, ce texte-là, l'évocation bien sûr, Stéphane Covio, de l'évangélisation, cette christianisation de ces vikings, ça s'opère comment ?
Alors là, on avait un extrait qui évoque le roi Olaf Tryggvason, roi norvégien de la fin du Xe siècle, qui incarne une manière de christianiser un peu barbare ou brutale en tout cas. En fait, là, on a dans le cas de la Norvège une christianisation, plutôt une conversion, on va dire, brutale, simplement parce que les rois unifient le royaume en même temps qu'ils le christianisent. Et on voit bien d'ailleurs que le baptême qui est proposé et parfois imposé à ceux qui sont encore païens est autant un acte d'allégeance politique qu'un acte purement religieux. Ce n'est pas le cas partout. Au Danemark, par exemple, où la conversion se produit un peu avant, vers les années 960-970, on n'a pas vraiment trace de violence. Le roi Harald à la dent bleue, qui est à l'origine qui se fait baptiser, et qui est à l'origine de la conversion, ne semble pas avoir exercé de violence. En tout cas, on n'en a pas la trace sur les autres. Et parfois, on a des cas de conversion, on voudrait dire, négociée. Alors le cas le plus emblématique, c'est celui de l'Islande, en 999, où pour éviter la partition religieuse de l'île et la guerre civile, les hommes libres se sont réunis à l'Alfing, à Thingvellir dans l'Ouest, ont confié à l'un d'entre eux la charge de décider quelle religion il fallait choisir, et cet homme, qui est un sage, choisit le christianisme, alors que ce n'est pas la religion majoritaire, tout en laissant la possibilité à ceux qui le souhaitaient de continuer à pratiquer les sacrifices, pourvu que cela reste secret, que cela reste chez eux. Là, on a vraiment un acte de pacification.
Eh oui, c'est ça, le christianisme pour la pacification, avec pour les missionnaires, Alban Gauthier, bon, il y a plus d'intérêt d'aller directement voir le souverain plutôt que de risquer de se faire massacrer en essayant de convertir les petites gens. On va voir le chef, lui, il se convertit, puis après tout le monde suit. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Majoritairement, oui, c'est une conversion qui va du haut vers le bas, c'est-à-dire que mais c'est quelque chose qui existait, qui par exemple c'est ainsi que des régions comme l'Irlande ou l'Angleterre ont été converties, c'est-à-dire que il s'agit effectivement de convertir des chefs, des rois qui à leur tour convertissent leur entourage, qui s'efforce de convertir les élites de leur royaume, tantôt par la force, tantôt par la persuasion et tantôt par un mélange des deux. Et puis finalement, cette élite politique diffuse le christianisme dans la population en fondant des églises, en dotant des églises de revenus, en finançant le personnel religieux qui va assurer la christianisation dans le territoire.
Est-ce qu'il y a des résistances à cette christianisation ?
Il y a des résistances attestées dans certaines régions. Il y en a deux essentiellement. La Suède, au XIe siècle, on sait peu de choses, pour être honnête. Là où on est le mieux renseigné, c'est la Norvège, grâce au corpus des sagas royales, qui montre qu'il y a une résistance à la christianisation autant qu'à l'unification du royaume sous l'égide des rois évangélisateurs. Et cette résistance, elle a eu comme berceau une région qui est située plutôt au nord de la Norvège, qui est la région ce qu'on appelle le Trondheimur, la région de Nidaros, de l'actuel Trondheim, qui était dirigée par une famille d'aristocrates qu'on appelle les Jarls de Lade ou Hladir, et qui ont voulu s'opposer vraiment à la christianisation, à l'unification, en devenant les défenseurs du paganisme. Et c'est passé, indépendamment de tout ce qu'on peut imaginer en termes de résistance militaire, par une véritable guerre culturelle, passant par le biais de Skald, des poètes de cour, auxquels ces Jarls ont confié la mission de chanter le paganisme. Et il y a ici un poème très étonnant, composé par l'un de ces Skald qui s'appelle Eivindur, qui célèbre la mort du premier roi chrétien de Norvège, qui s'appelle Håkon le Bon, mais elle la célèbre cette mort en évoquant la manière dont il a été reçu par Odin à la Valhalla, après y avoir été conduit par les Valkyries. C'est une manière de nier le fait qu'il ait été chrétien et qu'il ait essayé d'imposer cette foi aux gens du Nord.
Oui, c'est la critique du christianisme, mais on le sent bien ici, dans ce cas que vous évoquiez, Stéphane Covio, il y a presque un enjeu de pouvoir en se disant païen, quant à l'inverse, il y a un enjeu de pouvoir en se disant chrétien, et avec ces rois saints, on assiste vraiment à ça, je pense à Olaf bien sûr.
Oui, on est évidemment, c'est le point d'aboutissement de toute cette logique-là. La christianisation est toujours une affaire de pouvoir et de foi, les deux d'ailleurs devant être considérées comme aussi authentiques l'une que l'autre. Il ne faut pas considérer que la religion est le faux-né d'enjeux politiques. Avec les saints rois, effectivement, on arrive un peu au bout du processus, puisque l'on a avec d'abord Saint Olaf en Norvège, puis ensuite Saint-Éric au Danemark et en Suède, l'apparition, ou plutôt le transfert, Alban Gauthier pourrait en parler puisque ça vient d'Angleterre, du modèle du Saint-Roi qui est évidemment un modèle de comportement pour tout le monde, qui est le protecteur de l'Église, qui devient même pour certains le roi de croisade, cet avatar-là existe, et qui est un puissant instrument de christianisation. Peut-être parce que cela rencontre tout un univers culturel. Alors, on entre sur des terres très, très mal balisées. La royauté ancienne des Scandinaves avait sans doute un caractère un peu sacré. Alors, on discute abondamment de savoir exactement de quoi il s'agissait, mais peut-être qu'il y a eu un effet de résonance et que ça a permis d'ancrer cette représentation et également de donner une légitimité supérieure au pouvoir de ces rois.
Alban Gauthier sur ces rois saints.
Oui, alors je dirais qu'ils remplissent un certain nombre de fonctions dans le christianisme tel qu'il existe dans les royaumes scandinaves, mais comme l'a bien dit Stéphane Covio, c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres régions d'Occident, en particulier en Angleterre. Cela permet d'abord de doter un certain nombre d'églises locales de saints locaux dont ils possèdent les reliques. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important, parce que la plupart des saints du christianisme, leurs reliques se trouvaient dans des régions beaucoup plus méridionales. Et donc déjà, il y a la possibilité d'avoir des reliques sur place. Et ça permet aussi de doter les dynasties, même si ces dynasties sont souvent instables, et peut-être même parce que ces dynasties sont souvent instables et sont souvent traversées par des divisions et des guerres civiles, ça permet de les doter de figures tutélaires auxquelles on peut se référer pour appuyer le pouvoir en se proclamant le successeur de Saint Olaf en Norvège, le successeur de Saint Knut au Danemark, le successeur de Saint Éric en Suède, etc. Donc ça répond aussi à ce besoin politique d'avoir un fondement sacré.
Avec cette réflexion aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur le crépuscule des Vikings, le fondement sacré du pouvoir, c'est sûr que c'est légitimement, sans aucun souci, sans oublier toute cette histoire. Et c'est en cela que ce monde viking est absolument passionnant, parce qu'il ne disparaît jamais. On le retrouve ensuite dans les sagas.
Sur le siège des Nornes, je m'assis 9 journées. De là, je fus emporté à cheval. Le soleil des sorcières luisait sinistrement parmi les nuées d'un ciel lourd de pluie. Du dehors et du dedans, il me semblait aller par les 7 mondes de victoire. En haut et en bas, je cherchais un chemin meilleur où les routes me seraient plus faciles. Il me faut dire ce que d'abord je vis quand je fus arrivé dans le monde des tourments. Des oiseaux roussis, qui étaient des âmes, volaient nombreux comme moustiques. De l'ouest, je vis voler le dragon d'espoir. Il tomba sur le chemin, mais il secouait les ailes si amplement, me sembla-t-il, que terre et ciel se brisaient. Du sud, je vis venir le cerf du soleil. Ils étaient 2 à le conduire par les rênes. Ses pieds reposaient sur terre, mais ses cornes touchaient le ciel. Du nord, je vis chevaucher les fils des nuits sans lune, à 7 en tout. Le vent se tut, les eaux s'arrêtèrent. J'entendis un vacarme féroce. Pour leurs époux, de fausses femmes moulaient de la terre à manger. Sanglantes pierres, ces sombres femmes traînaient lugubrement. C'était leur cœur sanguinolent qui leur pendait sur la poitrine, lourd de grand dol.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Nous venons d'entendre un extrait de la saga d'Éric le Rouge, du XIIIe siècle, bien sûr, mais qui évoque des événements bien antérieurs. Stéphane Covio, la christianisation de ce monde viking, de ces différents territoires, ne signifie pas la disparition des croyances, ou en tout cas, pas tout de suite. Et même dans la culture, ces croyances demeurent, puisqu'on les retrouve évoquées dans les sagas.
Oui, et les sagas jouent un rôle essentiel dans la construction de ce qu'on va appeler le mythe viking, c'est-à-dire elles construisent une mémoire du phénomène, avec, ou j'irais plutôt des mémoires, parce qu'elles sont plurielles, qui procèdent des besoins des sociétés qui les composent et qui les écoutent, c'est-à-dire celles du XIIIe et du XIVe siècle, puisque les sagas, comme vous l'avez rappelé, datent de cette époque. Il en existe de différents types. Toutes ne traitent pas des vikings, hein, d'ailleurs, mais certaines le font. C'est le cas, par exemple, des sagas dites des Islandais, Islendingasögur, qui sont les histoires des colons venus en Islande. Il y a aussi les sagas royales. Et puis, il y a ces sagas très étranges qu'on appelle, les sagas légendaires, Fornaldarsögur, qui sont des histoires de vikings. C'est là qu'on trouve, par exemple, le fameux Ragnar Lothbrok, bien connu des amateurs de la série Viking. Alors, comme je disais, ces sagas, ce sont vraiment ce ne sont pas des histoires qu'il faudrait prendre au pied de la lettre. Elles sont le résultat d'un processus de composition extrêmement complexe, dans lequel entre plusieurs choses, sans doute des traditions orales, des poèmes datant de l'époque viking, et puis aussi la littérature venue du monde occidental, les vies de saints, la littérature courtoise, la grande tradition de la géographie classique qui remonte à l'Antiquité, tout ça dans un mélange qui, pour certains historiens, est abominable, dans la mesure où il est impossible véritablement de trouver ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas.
Alban Gauthier, c'est pas abominable pour vous, ça va?
Oh ben non, c'est pas abominable, mais effectivement, c'est difficile de décrire ce que pouvait être la religion traditionnelle des Scandinaves avant leur christianisation, en se fondant sur ce que l'on trouve dans les sagas, comme dans l'extrait de la saga d'Éric le Rouge qui vient d'être diffusé. Parce qu'en fait, les auteurs de sagas au XIIIe, voire au XIVe siècle, reconstruisent un paganisme plausible, un paganisme, et puis un paganisme plaisant ensuite, parce qu'il faut évidemment pouvoir raconter une histoire qui va plaire au public. Et donc ils reconstruisent ce paganisme à partir probablement de récits oraux qui ont transmis de manière plus ou moins fidèle des traits du paganisme ancien, mais aussi à partir de très nombreuses autres sources, à partir de la Bible, à partir de la manière dont les païens sont décrits dans les œuvres hagiographiques classiques de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge occidental, à partir de leur connaissance éventuellement de la mythologie classique à travers par exemple l'Énéide de Virgile. Donc avec tout cela, on construit un petit peu comme aujourd'hui un auteur de roman historique pourrait imaginer de raconter ce à quoi pouvait ressembler le paganisme scandinave. Eh bien, on reconstruit un paganisme qui va être agréable à écouter. Le texte qu'on a entendu est très agréable et mystérieux, a des accents qui peuvent plaire au public, et en même temps quelque chose qui, certes, contient probablement des noyaux, des pépites authentiques, mais ces pépites-là, il est très difficile de les distinguer d'autres éléments qui viennent d'un nombre de sources tout à fait important.
Oui, nous savons combien il faut demeurer vigilant face aux usages publics de l'histoire. C'était déjà le cas au XIIIe siècle.
Les Écossais crièrent à leur victoire car ils avaient tué l'un des chefs ennemis. Quand Egil entendit ce cri, il courut alors entre les bataillons et quand il eut trouvé ses hommes, il apprit ce qui s'était passé. Il les encouragea à persévérer. Quant aux Jarls écossais, ils ne résistèrent pas longtemps quand ils virent tous leurs compagnons se dérober et s'enfuir à leur tour. Le roi Olaf mourut là, ainsi que la majorité de ses hommes, car tous les fuyards qui furent rattrapés furent oxy. Egil retourna alors sur le champ de bataille et y trouva Thorolf, son frère, mort. Il recueillit son corps et le lava, puis il le prépara selon la coutume. Ses hommes et lui creusèrent une tombe et l'y enterrèrent avec toutes ses armes et son armure.
Daniel Königsberg qui lisait cet extrait de la saga d'Egil de la première moitié du XIIIe siècle. Stéphane Covio, ici, des Vikings, ou en tout cas les descendants des Vikings, écrivent leur histoire, la réécrivent, la réinventent.
Oui, là, on est vraiment... vous parliez de réécriture de l'histoire au cœur des stratégies de réécriture de l'histoire. Et alors effectivement, avec cette saga d'Egil, Skallagrimson, on a une saga du XIIIe siècle qui probablement peut-être est écrite par Snorri Sturluson, le grand auteur islandais pendant du XIIIe siècle. C'est l'histoire d'un viking tel que sans doute les Islandais se le représentaient au XIIIe siècle, c'est-à-dire un personnage qui a du caractère, on peut le dire, hein, c'est un guerrier. L'extrait qui vient d'être lu évoque la manière dont il s'est engagé au service du roi anglo-saxon Æthelstan et a combattu les Écossais, le roi Olaf d'Écosse. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment existé, mais c'est aussi un poète génial. Il y a à la fin d'ailleurs de cette saga un superbe poème qui évoque ce qu'on appelle le Sonatorek, qui évoque la mort des fils des Guides. C'est superbe. Et puis c'est à la fin c'est un personnage qui se heurte au roi de Norvège. C'est très bien pour les Islandais du XIIIe siècle, qui à cette époque-là voient les rois de Norvège mettre la main sur leur île. Et il finit comme un chef respecté, de plus en plus malade, hélas, et que sa nièce, à sa mort, décide d'enterrer à la manière chrétienne, alors que lui-même ne s'est jamais converti. Alors on est vraiment là, dans les besoins des Islandais du XIIIe siècle, dire qu'ils sont, par rapport aux rois de Norvège, qui sont lointains. C'est un des imaginaires vikings. On pourrait ajouter à cela, ce n'est pas tout à fait le cas des Gitl, que ces sagas ont aussi structuré un imaginaire de l'ultra-violence. Il y a ce qui est plaisant, ce qu'évoquait Alban Gauthier tout à l'heure, mais il y a aussi l'imaginaire de l'ultra-violence. Et on peut l'illustrer par quelque chose qui est très connu et qui est absolument abominable, qui est le fameux rituel de l'aigle de sang, hein, qui consiste à tuer quelqu'un en lui incisant le dos, en brisant son échine et en faisant sortir les poumons derrière le dos. C'est raconté dans plusieurs sagas, notamment la saga des Orcadiens. On s'est beaucoup demandé d'où ça venait, cette chose-là. Certains y voient un événement authentique, alors par exemple une sorte de rituel odinique, mais il est fort possible que ça provienne d'une mauvaise interprétation par les auteurs du XIIIe siècle ou du XIVe siècle, d'une strophe skeldique du XIe, qui évoque la mort d'un roi d'Angleterre, Ella, tué par Ivar, le fils de Ragnar Lothbrok. La strophe qui est cryptique comme toujours, pouvant être comprise de deux manières. À York siégeait Ivar qui fit découper un aigle dans le dos d'Ella, donc on a l'horreur. Ou bien, à Jorvik siégeait Ivar qui fit découper le dos d'Ella pour l'aigle, ce qui veut dire, c'est très banal, qu'il l'a tué et qu'il a donné son corps en pâture aux animaux sauvages. Et dans ces cas-là, les auteurs du XIIIe siècle auraient inventé un rituel. Pourquoi l'ont-ils fait ? Par fascination morbide, peut-être, ou alors peut-être pour se distinguer d'une époque révolue, l'époque païenne, sachant que maintenant qu'on est chrétien, on ne procède plus ainsi.
Voilà, donc l'ultra-violence qui apparaît sous forme d'un mythe au XIIIe siècle, et peut-être. C'est cette ultra-violence que l'on retrouve aujourd'hui hein, dans cette fascination, cet imaginaire viking, parce que c'est vrai que ça tape dur hein, dans les séries, les films où il y a des vikings, mais alors attention, parfois on est étonné, les vikings sont un tantinet plus yéyé.
Sur les plages, on attaque, on tue, on pille, on égorge les bêtes et on poursuit les petites filles. Jusqu'à nos pieds. Chamois. Et la sueur qui ruisselle le long de nos aisselles nous rend encore plus sensuels.
C'est complètement disco, Pierre et Marc Jolivet. En 1975, les Vikings dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Élise Leu, Alban Gauthier, c'est pas idiot ce qu'il dit dans cette chanson, ces Vikings présentés bon classiquement comme cruels, ont envie d'une vie plus moderne, donc document historique ici.
Ah ben, tout à fait, je suis absolument certain que les auteurs de cette chanson ont lu Dudon de Saint-Quentin. Dudon de Saint-Quentin, donc l'auteur de l'histoire des premiers ducs de Normandie, qui écrit au début du XIe siècle, autour de l'an 1000, et qui, dans son œuvre, raconte exactement, mais au mot près, ce qu'il y a dans cette chanson. C'est-à-dire que c'est évidemment un petit peu modernisé dans la chanson, mais ce que raconte Dudon de Saint-Quentin dans les deux premiers livres de son Histoire des premiers ducs de Normandie, c'est exactement cela. Il met en avant successivement deux personnages. D'abord, un personnage de viking affreux, violent, terrible, pillard, rusé, pervers, méchant, donc qui est Hastings, et en contraste, dans le livre 2, il met en avant le personnage de Rollon. Rollon qui, lui, même quand il est encore viking, est déjà paré de toutes les vertus et, d'une certaine manière, rêve d'une vie plus moderne, dans le sens où, premièrement, il y a un rêve de Rollon, il y a un songe de Rollon, exactement comme dans l'Énéide, Énée rêve de la terre d'Italie où il viendra s'installer. De la même manière, Rollon rêve de cette terre à l'embouchure de la Seine où il pourra s'installer. Et effectivement, quand il arrive dans ce qui va devenir la Normandie, après avoir combattu, il se convertit, et d'une certaine manière, au début du Xe siècle, se convertir au christianisme, s'installer et mener une vie différente, alors c'est peut-être pas du chocolat chaud à cette époque, effectivement, mener une vie différente, c'est mener une vie qui, aux yeux de beaucoup de vikings, pouvait paraître plus confortable, plus désirable que la vie d'aventure dans des bateaux trempés qu'ils pouvaient mener au quotidien quand ils faisaient le viking.
On a bien compris que les pires ennemis des vikings sont les vikings eux-mêmes, au sens où ce sont eux qui ont transformé leur pouvoir pour devenir ces royautés scandinaves, chrétiennes. Alban Gauthier, on peut dire aussi que ce sont les vikings qui ont créé leur propre mythe avec les sagas. On a ici tout ce terreau qui crée notre imaginaire. À quel moment peut-on assister à une sorte de réhabilitation des vikings, au sens où ils ne seraient plus que des gens sanguinaires? Jamais, peut-être.
Je dirais dès le début, en fait, puisque je vous parlais de Dudon de Saint-Quentin. En fait, dès Dudon de Saint-Quentin, dès les environs de l'an 1000, on a cette double image. Ils ne sont pas que des affreux pillards sanguinaires. Alors, Dudon le fait en mettant en avant deux personnages de vikings. Il n'utilise jamais le mot viking, hein, puisqu'il écrit en latin, mais disons deux personnages d'hommes du Nord, de Normands, deux personnages d'hommes du Nord qui ont l'un les caractéristiques du viking sanguinaire, c'est Hastings, l'autre les caractéristiques du viking courageux, du viking aventureux, du viking qui veut trouver une nouvelle vie pour lui et les siens dans un lieu accueillant. Et ces deux images, en fait, elles sont présentes dès les environs de l'an 1000 chez un auteur qui est Dudon de Saint-Quentin. Simplement, chez Dudon, ce sont deux personnages différents qui ont ces caractéristiques. Dans la saga d'Egil, fils de Grimm le Chauve, hein, qui a été mentionné plus tôt, le même personnage, Egil, possède ces deux caractéristiques. Il est à la fois un être sanguinaire, ultra violent, et un grand poète, un aventurier et quelqu'un qui fonde en Islande un établissement où sa famille vit ensuite pendant plusieurs siècles.
Et on comprend très bien pourquoi, mais longtemps, longtemps plus tard, tout cet imaginaire étant toujours présent et les romantiques étant de la partie, les vikings fascinent. Richard Wagner, La Chevauchée des Valkyries en 1856. Alban Gauthier, tout comme les sagas, sont composites et vous nous l'avez clairement expliqué. On prend un peu ici, un peu là et puis on crée quelque chose qui est d'ailleurs assez extraordinaire. Ben, on a la même chose au 19e siècle. On puise ici et là et la mythologie nordique, évidemment, est inspirante.
Oui, le romantisme. Et le romantisme précoce dès le début du XVIIIe siècle, tout comme le romantisme tardif à la fin du XIXe siècle, s'inspire beaucoup de des récits scandinaves, des sagas, des Eddas, et Wagner en est un exemple. C'est très présent aussi dans le monde anglophone, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et sur le continent nord-américain, l'inspiration viking vient même servir, je dirais, d'exemple, de première, toute première présence européenne sur le continent américain, puisque on sait que des vikings sont allés au moins jusqu'à Terre-Neuve. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le personnage de Leif Erikson, par exemple, qui d'après les sagas est celui qui est allé jusqu'en Amérique, le personnage de Leif Erikson devient très populaire dans certains milieux en Amérique du Nord, jusqu'à devenir une sorte de concurrent de Christophe Colomb.
Ah oui, à ce point-là, Stéphane Covio.
Oui, le passage de Wagner, vous avez passé, c'est très intéressant parce que il montre bien donc effectivement cette fascination romantique et post-romantique hein, pour les Vikings. La Valkyrie de Wagner n'est pas le seul opéra viking, si je puis dire. Il y a aussi le Sigurd de Reyer qui va être donné cette année à Marseille. Il y a aussi le Hulda de César Franck. Enfin, c'est vraiment à la fin du 19e. Et c'est l'opéra de Wagner est très intéressant parce qu'il est tout à fait emblématique de cette dualité de l'imaginaire viking. La figure de Brunehild est à la fois une figure brutale, je ne vous mimerai pas ses cris au début du deuxième acte, et en même temps c'est aussi la figure de la femme libre, et ça c'est une autre partie de l'imaginaire, c'est même plutôt la femme qui se libère puisqu'elle renonce à sa divinité pour devenir une femme et céder à l'amour, et ça fait vraiment partie de cet imaginaire clivé, un imaginaire violent, ultra-violent, ça vous donne des avatars du côté du Troisième Reich, et ça vous donne aussi un autre imaginaire qu'on connaît un peu moins, qui est l'imaginaire justement de la liberté, les pays du Nord, lieu de la liberté, que certains ont traduit parfois en termes politiques, lieu de la démocratie. Les Islandais adorent imaginer par exemple que la démocratie est un peu née chez eux, du côté de Thingvellir.
Oui, c'est cette ambivalence du monde viking. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est différents vikings. Il y a le bon, le mauvais viking. Pour simplifier, Alban Gauthier, il y a cet héritage sombre et plus éclairé. Il y a cet héritage de la liberté, le retour à la nature formidable, et puis l'héritage du nationalisme.
Oui, alors du côté de la liberté, effectivement, on a par exemple au XIXe siècle des auteurs, des historiens, des penseurs du politique au Royaume-Uni et aux États-Unis qui expliquent que le parlementarisme, pour le Royaume-Uni, le parlementarisme est né dans ces peuples du Nord parce que les peuples du Nord avaient des sortes de réunions politiques qu'on appelle le Thing, réunions politiques dans lesquelles les décisions étaient prises par consensus ou par vote et les chefs se soumettaient aux décisions aux décisions de l'Assemblée. Du côté sombre, effectivement, bon, le sommet, c'est évidemment pendant le Troisième Reich. On peut prendre l'exemple de l'archéologie nazie, par exemple, qui a beaucoup cherché à mettre en avant les Vikings. Les fouilles de Hedeby, le grand port viking, d'époque viking sur la Baltique, qui était le grand port du royaume danois, disons au 10e, 11e siècle, les fouilles de Hedeby ont été menées par des archéologues de la SS. Un autre exemple qui peut être pris, c'est le cas de la Pologne occupée par les nazis. Des fouilles archéologiques ont eu lieu, des expéditions archéologiques ont été financées par le régime, en particulier par la SS, de manière à démontrer que sur le territoire qui allait devenir la Pologne, les premières formes étatiques n'avaient pas été établies par des Slaves, c'est-à-dire par des populations jugées incapables de s'organiser, mais par des Scandinaves, par des Vikings, et donc par des Germains, par des Ariens de race pure, etc., etc. Vous comprenez évidemment toutes les implications.
Ouais, et puis c'est là vraiment où l'on saisit que les Vikings ne disparaissent pas, et on le sait, ils sont vraiment présents, ne serait-ce qu'en dans les imaginaires et l'utilisation politique. Merci vraiment à tous les deux, Stéphane Covio. Je rappelle, La fin du monde viking, c'est chez Passé Composé, et vous, Alban Gauthier, vous avez co-dirigé avec Stéphane Covio, avec Anne Lerf, avec Vivien Barrière, barrière, les mondes du Nord, eux, ils sont pluriels, hein, des premiers peuplements à la fin de l'âge viking, c'est chez Talendier. Merci vivement à tous les deux.
Le plus grand désir de tout viking était de mourir l'épée à la main et d'entrer dans le Valhalla, où le dieu Odin leur offrait l'accueil réservé aux héros.
Préparez-lui des funérailles de viking.
Ben voilà, c'est des funérailles de viking, mais c'est pas Odin qui est là, c'est Valérie. Valérie en bonne compagnie. Aujourd'hui, Valérie Hanin, directrice de rédaction du magazine Histoire, bonjour.
Bonjour Xavier.
Je disais en bonne compagnie parce que le numéro de l'Histoire s'intéresse à la grande aventure de la Compagnie des Indes.
Eh ben oui, et nous on va partir vers l'Est là, hein, toujours par la mer, mais pas du tout comme les vikings, vers les Indes. Les Indes, une histoire qui fait rêver la Compagnie des Indes, les Compagnies des Indes, faudrait-il dire, hein, une histoire de la route des épices, la route maritime, celle des bateaux chargés de muscades, de girofles, de tissus précieux ou de porcelaine. Au XVIe siècle, c'était les Portugais qui tenaient l'océan Indien. Tout change au XVIIe siècle. Et c'est cette histoire-là qu'on a voulu raconter, celle des compagnies des Indes, c'est-à-dire des compagnies à charte. Ce sont les Anglais qui commencent, c'est souvent le cas. En 1600, lorsqu'Élisabeth Ière accorde pour 15 ans un monopole du trafic, du commerce avec l'Asie à une compagnie de marchands, c'est la première compagnie des Indes. Ensuite viennent, 2 ans plus tard, les Hollandais, la VOC. Les 17 messieurs, qui sont les grands actionnaires de la compagnie hollandaise, qui va devenir absolument richissime au XVIIe siècle. Et puis un peu plus tard, Colbert, avec ses 2 compagnies, 1664, un peu derrière, avec une plus grande place pour le roi. Mais quand même, on aura notre compagnie des Indes. Alors cette histoire-là, on la connaît depuis longtemps, évidemment, mais il y a 2 façons au moins de la raconter. Il y a une histoire romantique, nous dit Arnaud Orin, hein, celle évidemment des négociants aventureux. Il y en a du port de l'Orient. Il s'appelle comme ça, il est créé, il est construit en 10 ans.
Et vers l'Orient, vers l'Est.
Vers l'Orient, ouais, voilà, sur Port-Louis qui était déjà là, le port, sur l'histoire de Pondichéry, le comptoir chéri des Français, hein, la ville des fruits suaves où le pain est aussi bon qu'à Paris et où on épouse, 80% des mariages sont entre des Français et des jeunes femmes indiennes, celle d'un doux commerce libéral, hein, la Whig history, comme on dit quelquefois. Le doux commerce, on peut aussi la raconter tout à fait autrement, et c'est ce qu'on fait depuis une 15aine d'années, hein, raconter l'histoire de marchands richissimes qui sont prêts à tout parfois pour préserver leur monopole, le monopole de l'appropriation évidemment sur place dans les comptoirs, et le monopole de la vente à Londres, à Amsterdam ou à Paris ou ailleurs en Europe. Donc, pour cela, ils se dotent assez vite et ils sont capables de se doter de prérogatives souveraines. Ils ont des troupes, ils ont des bateaux qui sont aussi armés de canons. Ils lèvent des impôts, ils rendent la justice, ils sont gouverneurs de territoires immenses. On ne comprendrait pas autrement, hein, que ce soit la Compagnie des Indes qui soit la première puissance coloniale de l'Inde, bien avant la couronne elle-même qui ne récupérera ses droits qu'au milieu du 19e siècle, après la guerre des Cipayes. Donc c'est un véritable laboratoire colonial, une histoire aussi de violence, de prédation, de traite esclavagiste, ce qui n'était pas toujours si évident, et de marchands, au fond, parfois plus puissants que les États, ou aussi puissants que les États, capables de les faire plier quelquefois. Et bien aujourd'hui, évidemment, on regarde cette histoire d'un autre œil, quand on a affaire aussi à des grandes compagnies, des grands monopoles internationaux qui sont parfois capables de nous imposer leurs lois.
Ah oui, non mais c'est un vrai écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Et surtout, on n'imagine pas la puissance de ces compagnies-là. Merci vivement Valérie Hanin. C'est le numéro de l'histoire, le dossier de l'histoire, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi dedans. La grande aventure de la Compagnie des Indes. Merci Valérie, c'est le cours de l'histoire. Merci. Sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Chloé Rouillon, Maïwen Guizou, merci à Thibault Lebar, à France Bleu Normandie, à Caen. Le cours de l'histoire est écouté, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.